Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Sylvain Carton.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire cette semaine, un focus sur la maison d'édition algérienne Barzac, à l'occasion d'un entretien donné par son cofondateur, Sofiane Hadjadj, au magazine Books, notre partenaire. Ce sera la chronique de Baptiste Touvray. Mais pour commencer, notre invité est l'un des auteurs de romans policiers les plus célèbres au monde, Harlan Coben. Révélé avec le thriller Ne le dis à personne, vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires, l'écrivain américain publie régulièrement des polars destinés à tourner les pages frénétiquement pour connaître le fin mot de l'histoire. Son nouveau livre, Double piège, traduit aux éditions Belfond, n'échappe pas à la règle. Mais cette fois, l'héroïne est une femme beaucoup plus ambiguë que d'habitude et le dénouement est tout à fait surprenant, voire déstabilisant pour le genre. Raison de plus pour retrouver le romancier, toujours impressionnant par sa taille, dans le patio de son hôtel parisien, pour lui poser quelques questions, aussi sur l'Amérique d'aujourd'hui. Rencontre. Bonjour Harlan Coben.
Bonjour.
L'héroïne de votre nouveau roman, Maya, est pilote. Elle a servi dans l'armée américaine et elle a même combattu dans la région irako-syrienne contre l'État islamique. Est-ce que c'est une guerre qui vous inquiète, qui vous concerne?
Of course. I mean, everyone in the world
Oui, évidemment,
seems to be concerned.
Tout le monde est concerné par ce conflit. Mais ça a plus à voir avec l'expérience du personnage pendant la guerre et comment, effectivement, ça affecte donc la manière de voir le monde.
Mais néanmoins, est-ce que c'est une façon de rendre hommage à tous ces soldats américains et tous les soldats, de façon générale, qui viennent aider les Syriens?
Well, sure. I guess it was 3 years ago.
Oui, absolument. Je crois qu'il y a 3 ans maintenant, j'ai fait une tournée des bases militaires au Koweït, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Et je suis allée aussi dans un hôpital dans l'État de Washington où il y avait beaucoup de soldats blessés. Les rencontrer, les aider à écrire, les aider à parler de leur expérience, signer des livres pour eux, etc. C'était une expérience extrêmement émouvante. Et dans un de ces endroits, j'ai rencontré une femme qui était pilote militaire et elle était formidable. Elle est très différente de Maya, mais en tout cas, je crois que cette femme a été ma toute première inspiration pour Maya. Et en parlant avec beaucoup de soldats qui m'ont aidé d'une certaine manière à écrire ce livre, et je leur ai dit, voilà, je vais vous remercier à la fin du livre, et ils ont tous dit on ne veut pas être remercié. Remerciez juste les soldats dans leur ensemble qui ont connu des expériences bien plus difficiles que les miennes. Particulièrement les pilotes. Ils ne voulaient pas être cités dans les remerciements. Ils voulaient juste s'assurer que j'allais bien remercier les simples soldats.
Est-ce que ça vous permet aussi d'avoir un profil d'héroïne très différent de ceux qu'on voit habituellement? Une femme, soldate, pas forcément très maternelle d'ailleurs, qui a vraiment des caractéristiques différentes des narratrices.
Yeah, I've written 28 novels.
Alors j'ai écrit 28 romans, donc j'essaye toujours de faire quelque chose de différent.
And Maya, I think outside of Myron Bolitar.
Et Maya, je crois, à l'exception de Myron Bolitar, c'est mon héroïne préférée, même si elle ne ressemble pas du tout. Mais le défi, c'est effectivement de faire de quelqu'un comme Maya un personnage auquel les lecteurs vont s'attacher. Elle aime les armes à feu, elle est un peu froide, elle a ce syndrome post-traumatique, elle n'est pas très affectueuse, pas très chaleureuse, et on pourrait penser que vous n'allez pas l'aimer, et vous soucier d'elle. Et je crois qu'effectivement, ça, c'est le vrai défi de l'écrivain, faire que vous attachiez à ce personnage.
Le roman s'ouvre sur les funérailles du mari de Maya, qui a été sauvagement attaqué à Central Park. Elle-même a survécu, elle n'a pas pu le sauver, alors qu'on l'apprend, et vous venez de le dire, Harlan Coben, elle aime beaucoup les armes. Et souvent, elle sort avec une arme sur elle. Ce qui pose la question du port d'armes autorisé aux États-Unis, d'autant plus aujourd'hui, après ce qui s'est passé à Las Vegas, le 1er octobre, où un mass murderer, un meurtrier de masse, a tué plus de 50 personnes et blessé 500 autres. Quel est votre point de vue sur cette question du port d'armes libre aux États-Unis?
My viewpoint is irrelevant.
Alors, je dirais que mon point de vue n'a pas d'importance, en fait. Je n'aime pas donner mes opinions parce que je ne veux pas que quiconque entre dans mon livre en se disant, voilà, c'est un malade de droite, c'est un fou de gauche, c'est un libéral, c'est un conservateur. Parce que je crois que d'une certaine manière, ça influerait sur votre manière de regarder le livre. Vous y chercheriez des choses. Donc, j'essaie toujours, en fait, de poser des questions, mais de montrer les deux aspects, le pour, le contre, en espérant que le lecteur, bien sûr, va réfléchir à ces questions-là et trouver la bonne réponse. Hein. Et ça, c'est vraiment ma manière de faire. C'est comme ça que je choisis de faire les choses.
Maya se rend dans des centres de tir pour s'entraîner. Est-ce que vous-même, vous tirez, Harlan Coben?
Non.
Non.
Au fur et à mesure du récit, on apprend que Maya, dans le cadre d'une mission tragique... on l'a dit, à la frontière irako-syrienne, a été filmée et que la vidéo a été postée sur Internet par des lanceurs d'alerte qui, ici, veulent dénoncer les pratiques de l'armée. Qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte, Harlan Coben?
Again. I'm not going to give you my opinion. Alors,
une fois encore, hein, je ne vais pas vous donner mon avis sur cette question-là. Mais je dirais que je n'aime pas les réponses faciles. Pour moi, la question, c'est d'être dans la nuance, dans le gris. Et je crois que l'un des défis que l'on a par rapport à la politique, c'est qu'on est tous en train de penser de manière un peu simpliste et on ne veut pas écouter les autres opinions. Donc, si on parle du lanceur d'alerte qui est dans le livre, certains lecteurs vont penser que c'est quelqu'un qui fait du bon travail, d'autres penseront que non, et moi ça me va, l'une ou l'autre des options.
Donc, le roman comme miroir de la société, mais pas comme réponse à des questions?
Oui,
je pense que c'est toujours une erreur pour les écrivains d'essayer de vous donner leurs réponses. Ça n'a rien à voir avec le fait de raconter des histoires. Hein. C'est du prêche. Alors, peut-être qu'à partir du livre, vous pourrez deviner quelles sont mes opinions. J'en sais rien. Mais pour moi, je crois que la qualité la plus importante que doit avoir un écrivain, c'est l'empathie pour ses personnages. Donc, il faut que j'arrive à rentrer dans la tête de gens qui ont des sentiments et des opinions très différentes des miennes.
Alors, ce qui est très compliqué avec vos romans, Harlan Coben, c'est que comme il s'agit de romans policiers, on ne peut pas dire grand-chose. On sait que le mari de Maya a été assassiné. On sait que l'arme qui a assassiné cet homme est la même que celle qui a servi pour la sœur de Maya. Et on va la suivre avec différentes pistes, voire fausses pistes, et la fin est extrêmement surprenante. Je n'en dirai pas plus, mais je me demandais, Harlan Coben, quand on a écrit depuis plus de 15 ans autant de livres policiers, est-ce que ça devient de plus en plus difficile de trouver une bonne fin, ou au contraire, avec l'expérience, c'est tout le plaisir que de surprendre son lecteur?
It's a little bit of both.
Alors, c'est un peu des deux.
It's sort of like I'm traveling through a
c'est un peu,
field.
D'une certaine manière, comme si je voyageais une très grande étendue. Donc, je débroussaille, sans trop savoir où je vais. Et puis, finalement, je vais arriver à la fin. Alors, j'ai un peu plus d'expérience, mais je ne peux pas prendre le même chemin. Il faut que j'en trouve un autre, donc je continue à débroussailler. Et à chaque fois que je retourne en arrière et que je recommence, évidemment, il y a de plus en plus de chemins qui ont été tracés, mais mon expérience a grandi, donc c'est un peu les deux choses. Mais je pense que Ce livre est celui qui, d'une certaine manière, a la fin la plus intéressante. Et j'espère que cette fin va continuer à hanter les lecteurs. Et c'est vraiment ce que je voulais, qu'une fois fermé le livre, Maya reste avec vous un peu plus longtemps que mes autres personnages.
Si j'ai bien compris, ce livre est déjà en cours d'adaptation pour le cinéma avec Julia Roberts dans le rôle principal. Est-ce que les studios vont accepter cette fin telle que vous l'avez écrite?
I don't know.
Je ne sais pas.
I know that Julia Roberts called me.
Je sais que Julia Roberts m'a appelé, je crois, le jour après la sortie du livre aux États-Unis. Et vraiment, elle avait parfaitement compris le personnage de Maya, l'histoire.
She really wants to play it.
Et elle a vraiment envie d'être Maya,
great.
De jouer Maya. Et je pense qu'elle serait absolument formidable dans ce rôle.
I don't really trust Hollywood, to be
mais
honest.
Pour être parfaitement honnête, je ne fais pas totalement confiance à Hollywood, donc je ne sais pas. Il n'y a pas seulement la question de la fin, je ne suis pas sûre qu'ils acceptent non plus une image de femme qui est mère, qui n'est pas très maternelle, qui n'est pas très douce, qui n'est pas très affectueuse. Et c'est toujours en fait un des problèmes qui se posent avec Hollywood.
Restons sur le cinéma et plus exactement la télévision, car vous avez créé The Five, une série pour le petit écran. Et là, vous travaillez sur une deuxième série, Safe, avec Michael C. Hall, un acteur américain que l'on connaît bien, et Audrey Fleurot, qui est une actrice française que l'on aime beaucoup, qui est une des protagonistes, par exemple, de la série Engrenage. Comment s'est-elle retrouvée dans l'aventure ?
Well, Safe is a joint production.
Alors la série Safe, c'est une coproduction entre Netflix et C8, qui appartient au groupe Canal Plus. Ils voulaient en fait que la production soit un peu plus internationale, donc on voulait une actrice française dans l'un des rôles. Et je connaissais effectivement le travail d'Audrey Fleurot avec le film qu'elle avait fait avec François Cluzet, Les Intouchables, et je l'ai rencontrée en fait exactement ici, à l'hôtel de Busson. Et j'étais très contente parce qu'elle a beaucoup aimé le personnage qu'on lui proposait et je suis très très excitée parce qu'elle a un rôle dans la série qui est très différent des rôles dans lesquels on la connaît. Elle est la mère en fait d'un adolescent, elle parle anglais et franchement elle joue remarquablement bien. C'est une très grande comédienne.
En tout cas, c'est une nouvelle preuve que vos liens avec la France comptent beaucoup dans votre cœur, mais j'ai l'impression que ça compte aussi dans votre travail de plus en plus.
There's no question about it.
Oui, oui, absolument, ça ne fait aucun doute. J'ai fait deux séries télévisées ici, j'ai fait un film.
Book my next book in America has a character named Nap Dumas.
Et
who
mon
has a French background.
Livre qui sortira en mars, Sans défense, a un personnage qui a une origine française et ça ne fait aucun doute que les Français ont beaucoup influencé mon travail, mais aussi ma vie. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en venant régulièrement en France et c'est des choses que j'essaye effectivement d'importer dans mon pays.
Donc la prochaine fois, nous faisons une interview en français, Arlan Coben.
It's my weakness.
Ça, c'est mon languages. Point faible, les langues vivantes. J'ai essayé de nombreuses fois. Il faut juste que j'accepte. C'est pas mon point fort et j'arriverai jamais à apprendre. Donc voilà, cette interview en français, ça ne se fera pas. J'aimerais bien, mais...
L'essentiel, c'est qu'on puisse vous lire en français, ce qui est le cas avec Double Piège, ce nouveau roman donc, qui paraît aux éditions Belfond dans une traduction de Roxane Azimi, et qu'on puisse comprendre ce que vous nous dites grâce à Pascal Fougère, qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien. Merci beaucoup, Arlan Coben.
Merci.
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Bonjour Baptiste Touvré.
Bonjour.
avec vous. Nous parlons donc de ce nouveau numéro de Books, novembre-décembre, qui, sur la couverture, pose une question importante. Sommes-nous si faciles à manipuler, sous-entendu dans le cadre des réseaux sociaux, en commerce et en politique? De notre côté, nous restons dans le domaine de la littérature qui nous intéresse plus, avec ce grand entretien qui est publié dès la page 12 avec Sofiane Hadjadj, qui est le cofondateur des éditions algériennes Barzac, qui depuis 2000 compte environ au catalogue 150 titres, ce qui est important, et surtout leur auteur phare, c'est Kamel Daoud, que Sofiane Hadjadj, on peut le dire, Baptiste, a découvert.
Oui, il a fait pratiquement Kamel Daoud, et donc dans cet entretien qu'a réalisé Eve Charin pour Books, il raconte la genèse de ce qui est devenu le grand succès de Kamel Daoud, Morceau contre enquête. En fait, Kamel Daoud, il l'explique très bien, au départ c'est un journaliste, et plus exactement c'est un chroniqueur. C'est une spécialité algérienne, on connaît très peu ça en France. Quelqu'un qui tous les jours parle de l'actualité dans un journal, lui c'était le journal d'Oran. Et donc, il était dans l'immédiateté, il était dans les textes courts, dans la tension permanente. Ses premiers écrits, c'était donc des nouvelles qui étaient adaptées à ce mode de vie. Il avait écrit en 2010 un texte qui est l'embryon de ce qui allait devenir Morceau contre enquête, qui a été publié notamment dans Le Monde. Et là, Sofiane Hadjadj lui a dit « Tu tiens un roman ». Simplement, il n'avait pas le temps d'écrire un roman. Donc, Hadjadj s'est débrouillé pour lui libérer 2 semaines, une sorte de résidence d'écrivain improvisé, et pendant ces 2 semaines, il a écrit l'essentiel du roman.
Voilà le travail d'un éditeur aussi, c'est non seulement publier, mais accompagner un auteur dans l'écriture. Alors ce qu'on apprend au cours de cet entretien, c'est que cette maison d'édition, Barzac, publie aussi beaucoup de sciences humaines et surtout de l'histoire, parce que force est de constater que l'histoire algérienne ne se limite pas à la colonisation.
Oui. C'est très compliqué en fait d'aborder toutes ces questions historiques en Algérie. Il le dit très bien dans l'entretien. Il explique que pour l'histoire officielle, l'histoire algérienne commence en 1954 ou 1962. C'est à peu près la seule liberté qu'on laisse en général. Et lui s'intéresse à l'histoire de la colonisation française et à l'histoire précédente, parce qu'il y a eu d'autres colonisations, explique-t-il, notamment la colonisation turque des Ottomans. Et petit à petit, il arrive comme ça à aborder des thèmes qui le sont très rarement dans le paysage intellectuel algérien. Il remet en question notamment la fiabilité des mémoires. C'est très intéressant ce qu'il raconte. Il cite Annette Viviorca qui dit que, dans une certaine mesure, c'est compliqué d'écrire l'histoire tant que les témoins sont là. Parce que les témoins sont partiaux. Et ce qu'il constate, c'est que très bientôt, on va arriver à un moment où sur l'histoire notamment de la guerre d'Algérie, de la colonisation, les derniers témoins auront disparu et on pourra en parler de façon apaisée. Et lui a amorcé ce mouvement-là dans sa maison d'édition.
Dernier point abordé dans cet entretien, évidemment la question de la censure ou de l'autocensure en Algérie et de quelle liberté dispose un éditeur.
En théorie, il dispose de toutes les libertés et en réalité, il y a 3 thèmes qui sont tabous. Le sexe, la religion, bien sûr, et l'armée. Alors, le sexe, il y a des auteurs qui arrivent quand même à passer outre. Ils citent notamment Amin Zawi, qui écrit des écrits quasiment pornographiques. Ça passe. Kamel Daoud, lui, remet en question, comme on sait, la religion. Et en fait, le dernier vraiment grand tabou, c'est l'armée. L'armée, c'est l'héritière du FLN. Elle est au centre de l'identité algérienne actuelle. Ça, pour l'instant, c'est indéboulonnable. Mais le roman, beaucoup plus que l'essai, permet malgré tout de s'attaquer légèrement grâce à la métaphore, grâce aux comparaisons, à ce dernier tabou-là.
Voilà tout ce qu'on peut découvrir, entre autres, dans cet entretien absolument passionnant de Sofiane Hadjadj, qui est donc le cofondateur des éditions Barzac, qui veut dire, Baptiste?
C'est l'espace qui sépare le monde spirituel du monde physique. C'est l'équivalent, dans le monde chrétien, des limbes.
Un entretien qui a donc été réalisé par Eve Charin et qui est publié dans ce nouveau numéro de Books novembre-décembre 2017. Merci beaucoup, Baptiste.
Merci à vous.